Et donc bonjour à tous, donc, je vais vous présenter, comme l'a dit Chantal, plutôt la partie, la partie Afrique qu'il y a dans le projet. Donc, c'est une des trois régions qu'on a étudiées. Et on a essayé en fait, de quantifier le devenir des rendements des cultures en Afrique de l'Ouest en réponse au changement climatique. Et donc c'est un projet qui a impliqué plusieurs laboratoires et qui est donc choisi comme région, comme secteur d'activité, l'agriculture. Donc pourquoi l'agriculture? Puisque c'est une activité anthropique qui est la plus dépendante du climat. Donc avec des impacts très forts du climat qui sont partout dans le monde, mais en particulier dans des régions tropicales. Il y a une variabilité du climat qui est très forte. Donc on a des systèmes de moussons, on a des lensos, on a des inondations, et puis on a aussi en réponse une relativement faible capacité d'adaptation, ce qui amplifie un peu les impacts socio-économiques de la variabilité climatique. Et donc ça, c'est particulièrement important au Sahel. Donc le Sahel, c'est la région que vous voyez ici en bleu. Donc avec ici, c'est une carte de l'Afrique de l'Ouest, avec les précipitations qui sont importantes dans la zone guinéenne, qui diminuent à mesure qu'on approche du Sahara. Le Sahel se trouve ici. Et dans cette région, on a des systèmes agricoles qui sont relativement faiblement mécanisés, qui sont quasiment pas irrigués, donc qui sont très dépendantes des fluctuations pluviométriques. Et c'est aussi une source de revenus très importante pour les populations, une source d'emploi. C'est aussi une source d'alimentation qui est très importante, puisqu'il y a très peu d'importations pour tout ce qui est produit, en fait, c'est de l'agriculture de subsistance. Et puis, donc, il y a une population qui augmente rapidement, et donc il y a une nécessité d'augmenter la production pour nourrir la population. Donc c'est un enjeu particulièrement important, que je voudrais illustrer ici par l'exemple de la sécheresse qu'il y a eu au Sahel, comme ce qu'a montré un petit peu Sylvie. Donc ici c'est une courbe des précipitations au Niger, qui se trouve au centre du Sahel, entre 1950 et 2000, avec en bleu les années humides, en jaune les années sèches. Donc vous voyez qu'il y a cette fameuse sécheresse. Et puis si on superpose maintenant en rouge le rendement des céréales, vous pouvez voir qu'on a une coévolution entre la pluviométrie et les rendements, avec un certain nombre d'années sèches qui correspond à une faible production, à une faible productivité agricole, et souvent à des déficits alimentaires. Donc il y a vraiment importance d'étudier le lien entre le climat et l'agriculture, et en particulier dans le contexte du changement climatique, où il y a une grosse incertitude sur l'évolution du climat, et en particulier l'évolution de la pluviométrie, et ce qui a été un petit peu la motivation de Regina. Ça a été de voir comment... donc on sait qu'on a une relation très forte entre le climat et l'agriculture dans l'actuel. Et donc ce qu'on veut savoir, c'est si le climat évolue, comment l'agriculture va répondre à ce climat. Et donc ce qu'on sait parmi les postulats pour lesquels on a commencé le projet Regina, c'est qu'on sait que la température va augmenter en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Donc ici en Afrique de l'Ouest, c'est entre plus 2 degrés et plus 6 degrés en moyenne. Et puis, par contre, pour les précipitations, c'est beaucoup plus incertain. Donc, c'est ce qu'a illustré un petit peu Sylvie. Donc là, je remontre avec cette fois des simulations plus récentes à l'issue de CD5, avec les deux modèles français. Donc ici, le modèle du CNRM, le modèle de l'IPSN. Donc les projections futures des précipitations. Et donc, vous voyez qu'ici, on a un modèle qui simule plutôt une augmentation des précipitations, avec beaucoup plus de bleu ici. Et là, au contraire, on a dans l'autre modèle de l'IPSL, le modèle de l'IPSL, on a plutôt une diminution des précipitations. Donc on a une incertitude très forte sur les précipitations. Et donc on peut se demander, est-ce qu'on peut dire quelque chose sur l'évolution des rendements si on a une incertitude tellement forte sur les précipitations. Et donc, ce que je vais vous présenter, c'est justement comment on a essayé de travailler sur ça dans Regina. Donc il y a différentes, à la fois l'approche, la méthodologie, et donc les résultats avec différentes méthodes qu'on a utilisées, et puis les incertitudes associées à ça, et qu'est-ce qui a débouché par la suite de Regina. Donc l'approche générale, en fait, on passe souvent pour essayer d'étudier les impacts, on passe par l'information climatique, en fait, n'est pas suffisante. On a besoin d'utiliser ce qu'on appelle des modèles d'impact, qui traduisent en fait l'information climatique en termes d'impact, dans un secteur donné, en termes de risque pour une population donnée. Et donc ces modèles-là sont particulièrement utiles pour synthétiser les connaissances existantes. Par exemple, dans notre cas, sur les synthétiser les connaissances entre la relation entre le climat et la plante, explorer des hypothèses nouvelles. Par exemple, si on sème une nouvelle variété dans une autre région, qu'est-ce qu'on pourra avoir comme rendement, identifier des variables clés. Donc, qu'est-ce qui est le plus important pour la plante? Est-ce que c'est quelle échelle de temps? Est-ce que c'est la pluviométrie, le rayonnement? Et puis construire des scénarios dans le futur, ce qui nous a particulièrement intéressé dans ce cas-là. Donc, quel va être le rendement dans le contexte du changement climatique? Donc, il y a plusieurs approches. L'approche de construire des modèles empiriques, qui sont juste des relations statistiques entre la pluie et le rendement, par exemple. Ça, c'est des relations qui sont assez simple à mettre en place, donc il nous faut beaucoup de données par contre, et puis c'est stationnaire, donc ça peut ne pas marcher dans le contexte futur. On a des modèles mécanistes, donc là c'est représenter explicitement tous les processus qui régissent les relations entre la pluie et la plante par exemple, donc ça c'est des modèles qui sont non stationnaires, donc on peut les utiliser dans le futur, et par contre c'est plus difficile à paramétrer, à extrapoler, et puis on a des problèmes d'échelle sur lesquels je vais revenir. Donc nous, on s'est plus orienté vers cette approche mécaniste, en particulier en utilisant le modèle qui s'appelle SARA, qui est un modèle qui a été développé par le CIRAD, qui est un organisme qui étudie l'agriculture tropicale à Montpellier, et donc qui combine un modèle de bilan hydrique, donc qui calcule l'évolution de la demande en eau, qui calcule les indices de stress hydrique, et puis un modèle de bilan carboné, donc qui convertit le rayonnement en termes de biomasse, et donc il calcule l'évolution du couvert végétal. Donc on a utilisé ce modèle-là. Et on va faire un des exemples de validation de ce modèle. Donc vous avez ici l'évolution des rendements observés sur l'Afrique de l'Ouest, des rendements du mil et du sorgho, donc observés par la FAO, par l'Organisme mondial de l'agriculture. Donc ici en noir, vous avez l'évolution des rendements observés entre 1960 et 1990. Et puis en rouge, vous avez l'évolution qui est simulée par notre modèle quand on a enlevé en fait la tendance linéaire qui est liée au progrès technique. Et donc vous voyez qu'on arrive bien à capturer l'évolution, donc ça ne marche pas tous les ans, mais on arrive relativement bien avec notre modèle à traduire l'évolution interannuelle des rendements. Donc ce qui nous montre qu'on arrive à capturer la réponse du climat, la réponse de la plante au climat. Donc on pourrait s'en servir pour le changement futur. Donc autre avantage de ce modèle, c'est qu'il est capable de capturer de la variabilité des relations non linéaires, donc ce qui n'est pas forcément facile avec des modèles statistiques. Donc ici on a fait un ensemble de simulations de notre modèle SARA sur plusieurs régions en Afrique de l'Ouest, sur plusieurs années, et on a regardé l'évolution du rendement en fonction de la pluviométrie annuelle. Et donc vous voyez qu'au fur et à mesure que la pluie augmente, on a une augmentation du rendement, ce qui paraît logique, mais ça arrive à un certain seuil, jusqu'à un certain seuil ici de 500 mm, au-delà duquel on peut augmenter la précipitation annuelle, mais les rendements n'augmentent pas, donc c'est d'autres variables qui vont expliquer l'évolution des rendements. Donc on a des relations non linéaires dans notre modèle, qui peuvent être utiles dans le contexte futur. Donc j'en arrive à expliquer maintenant l'approche un peu générale qu'on a eue. Donc pour traduire le changement climatique, on a d'un côté donc, ce que je vous ai montré, donc les changements à grande échelle de précipitation ou de température, qui sont issus des modèles de climat, des GCM, qui sont en général à une résolution très large, donc typiquement 200 km par 200 km, et on veut traduire ça en termes d'impact. Donc pour faire ça, on a deux possibilités. Donc soit on refait les modèles d'impact qui sont à l'échelle de ces modèles de climat. Donc on reconstruit nos modèles, on les recalibre pour qu'ils puissent être adaptés à cette échelle-là, adaptés au biais des modèles, adaptés à l'échelle des modèles, et donc qui donneront ensuite des impacts à grande échelle, par exemple à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'un continent tout entier, et on ne pourra pas descendre à une échelle très fine qui pourrait être utile pour des acteurs locaux par exemple. Et puis l'autre approche, c'est d'utiliser des modèles d'impact à petite échelle, donc qui évaluent vraiment les impacts à l'échelle de la parcelle. Et là, on va se retrouver avec une sorte de gap d'échelle entre la grande échelle et l'échelle locale qu'on a besoin. Et on va être obligé de passer par la descente d'échelle. Donc je vais illustrer un petit peu. Dans Regina, on a essayé d'utiliser les deux approches, de passer par les deux approches pour essayer de voir en fait la robustesse des résultats. Donc j'ai illustré ces deux approches-là. Donc la première qui est la descente d'échelle, donc passer de la grande échelle à l'échelle locale. Donc on a un problème d'échelle qui est assez important entre les modèles de climat qui simulent le climat à l'échelle d'une maille typiquement de 300 km par 300 km. Et puis en dessous, donc ce qui nous intéresse, c'est ce que voit la plante, c'est le climat local à l'échelle d'un mètre, d'un kilomètre. Et donc comment on peut faire pour passer du climat régional, du climat à grande échelle au climat local? Donc on passe généralement par des techniques de descente d'échelle, de downscaling, qui consistent à faire le lien entre ce climat à grande échelle et le climat local qui va être nécessaire pour simuler donc ces débits, les débits des fleuves par exemple, les inondations, les rendements. Donc ça a été vraiment le cœur de Regina, c'est travailler sur ces techniques de descente d'échelle. Et donc il y a plusieurs techniques, il y a des techniques statistiques sur lesquelles on a beaucoup travaillé, sur les types de temps par exemple, donc qui relient en fait une circulation atmosphérique à grande échelle avec le climat local. Et puis il y a d'autres types de techniques, ce sont l'utilisation des modèles régionaux. Donc les modèles régionaux, en fait, c'est des modèles qui ressemblent beaucoup aux modèles de climat, mais qui sont sur une aire limitée, sur une région beaucoup plus limitée, et qui voient aux frontières de leur domaine, donc sur les bords, qui voient en entrée donc, les sorties des modèles de grande échelle, qui permettent d'aller beaucoup plus finement en résolution. Mais ces modèles-là, donc ce qu'il faut faire attention, c'est qu'ils ont des biais, ils ont beaucoup de biais, souvent les mêmes que ceux des GCM, et ça peut poser des problèmes pour les diagnostics d'impact, et c'est ce que je vais illustrer là. Donc on a utilisé notre modèle SARA pour faire des simulations de sorgho au Sénégal, qui se trouve à l'ouest du Sahel. Donc on a pris notre modèle, on a fait des simulations sur une quinzaine d'années de rendement, et on a simulé le rendement moyen, donc c'est ce que vous voyez ici, à partir d'observations climatiques. On avait une douzaine de stations au Sénégal, on les a moyennées, et on a fait notre simulation, et on avait un rendement qui était autour de 600 kg par hectare, avec nos observations météorologiques sur nos 15 ans. Et ensuite, on a fait exactement la même simulation, mais au lieu de prendre des sorties des modèles au lieu de prendre des sorties observées, on a pris des sorties des modèles de climat, et on en a pris beaucoup. On en a pris plusieurs pour voir un petit peu la dispersion des résultats, et c'est ce que vous voyez ici, en fait, c'est à chaque fois, c'est l'utilisation d'un modèle régional. Vous voyez que le rendement, si au lieu d'utiliser des observations, on utilise des modèles régionaux, le rendement, il peut varier entre ici jusqu'à presque 800 kg par hectare à quasiment rien pour un modèle qui donne quasiment pas de rendement quand on le couple avec le modèle SARA. Donc vous voyez qu'il y a une grosse dispersion dans ces modèles régionaux, et donc si on utilise directement des modèles régionaux pour faire des diagnostics sur le changement futur, on peut rajouter beaucoup d'incertitudes. Et donc on a travaillé aussi dans Regina pour essayer de réduire un petit peu ces biais. C'est ce qu'on a fait ici. Ici on a refait exactement la même simulation, donc la barre noire c'est la même. Mais pour tous les modèles régionaux, ici, on a corrigé les modèles avec une méthode statistique de correction de biais qui a été développée au LSCE par Mathieu Brac, donc qui a été utilisée dans le projet. Vous voyez qu'on a corrigé à chaque fois les entrées du modèle, et on arrive en fait à restituer assez bien les rendements moyens avec cette méthode de correction de biais. Donc l'utilisation des modèles régionaux, c'est bien, mais il faut, c'est vraiment très important d'utiliser ce type de méthode de correction de biais. On ne peut pas l'utiliser directement parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Donc, autre méthode de descente d'échelle, statistique, là j'en illustre une autre, qui est en fait la méthode la plus simple qui soit pour le downscaling, c'est la méthode des deltas. En fait, je vous l'explique ici simplement. Ici, par exemple, c'est un exemple d'évolution de température entre 1950 et 2050 pour un modèle, un GCM. Et puis, en fait, ce qu'on va faire, c'est... Donc vous voyez que l'évolution, les températures augmentent, c'est pour plusieurs années, les températures augmentent. On va choisir deux périodes, une période de référence, donc la période actuelle ici, entre 1950 et 2010, et une période future, ici c'est 2030-2050, et on va calculer le delta de température entre les deux. Et puis ensuite on va imposer ça à nos observations. Donc on a des observations de température, on peut faire la même chose pour les précipitations, on va imposer juste le delta à nos observations. Et donc c'est une façon de rester à l'échelle locale et de prendre uniquement ce qui nous intéresse des modèles, c'est l'évolution future. Donc l'avantage, c'est que ça corrige le biais des modèles de climat, puisqu'on reste dans l'échelle locale, mais par contre, on n'a pas de changement dans la variabilité, dans les événements extrêmes. Donc ça peut être aussi assez dommageable. Donc c'est ce qu'on a fait ici. Donc ici, on l'a fait de manière... assez large, c'est-à-dire que en fait on a ce grand carré, on a pris des observations de précipitations, de température sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, et on a augmenté Ici, on a augmenté de 1 degré les températures, de 2 degrés, de 3 degrés, de 4 degrés, de 5 degrés, jusqu'à 6 degrés. On a fait, pour les précipitations, on a augmenté de 10%, de 20%, ou on a diminué de 10%, de 20%. Et on a regardé, ça c'est les couleurs que vous voyez, on a regardé quelle va être l'évolution des rendements en Afrique de l'Ouest pour ces gammes de scénarios climatiques. Et donc, c'est ce que vous voyez là. Et donc, ce que vous voyez, c'est que lorsqu'on augmente de 1 degré, de 2 degrés, à chaque fois, on a une diminution des rendements. Donc, le rose, le rouge, correspond à une diminution des rendements dans notre modèle. Et le bleu correspond à une augmentation. Vous voyez qu'il y a très peu de cas dans nos scénarios fictifs où on a une augmentation des rendements. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a projeté les projections des modèles de climat, les projections des GCM, donc à la fois de la R4, donc du rapport du GIEC qui a été publié, et de la R5, donc des simulations qui vont servir au prochain rapport du GIEC. C'est ce que vous voyez ici. Donc en gris, c'est les scénarios de la R5. En blanc, c'est les scénarios de la R4. Et puis, on a projeté également les anomalies climatiques qu'on a observées dans le passé. Et donc, ce que vous voyez, c'est qu'on a donc une grande dispersion des scénarios climatiques, des projections climatiques futures. Et par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que en fait, toutes ces projections, même s'il y a une grosse dispersion dans les impacts, elles se retrouvent tous dans la zone rose-rouge. Donc, c'est dans la zone où il va y avoir une baisse des rendements. Donc, il y a quasiment, même s'il y a une incertitude énorme entre ce modèle-là et celui-là, par exemple, on sait qu'on a un signe qui est négatif du changement climatique et qui est lié en particulier à l'effet de la température. Donc ce que vous voyez, c'est que quand on a une augmentation de 2 degrés en termes de température, quelle que soit l'évolution des précipitations futures, on aura un impact qui va être négatif en termes de rendement. Donc ça veut dire qu'on a une incertitude très forte en termes de précipitations. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien dire en termes d'impact. On peut quand même dire quelque chose puisque là, le signal qui domine, c'est l'effet de la température. Et ce qu'on voit aussi, c'est que ça c'est important pour l'adaptation, c'est que quand on regarde les différences entre les années passées et les années qui sont projetées dans les scénarios futurs, on a une différence énorme, ça veut dire que le futur sur l'Afrique de l'Ouest va être très différent de ce que les gens ont observé jusqu'à maintenant. Donc ça c'est vraiment très important pour l'adaptation, puisque comment on peut s'adapter à quelque chose qu'en fait on n'a jamais vu, un climat qui va être totalement nouveau. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a appris, c'est dans le cadre du projet, c'est que nous, au début, on était focalisé sur les précipitations, mais là, on a vu que finalement, les précipitations, elles peuvent moduler l'impact du changement climatique, mais elles ne peuvent pas changer le signe. Donc ensuite, on s'est aussi intéressé à développer un modèle à grande échelle, donc qui marche vraiment à l'échelle des modèles de climat, donc sans passer par ces étapes de correction de biais, ces étapes de downscaling, donc qui peuvent rajouter de l'incertitude. Donc on reste à l'échelle des modèles de climat et on prend ce qu'ils savent dire. Donc ça, on l'a fait en collaboration avec le LSCE, avec Nathalie Denoblet, dans le cadre d'une thèse d'Alexis Berg. Et on a pris le modèle Orchidée, qui est un modèle de dynamique de végétation, donc qui sert à étudier les interactions entre la surface et l'atmosphère, donc qui marche avec les mêmes grilles que les modèles de climat, et qui représente donc la dynamique de la végétation sur plusieurs couverts végétales. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est que on a introduit des paramétrisations du MIL, donc qu'on connaissait à partir du modèle SARA, à partir de nos collaborations avec les agronomes du CIRAD. Et on a introduit ça dans le modèle Orchidée, donc pour pouvoir faire des simulations directement avec Orchidée des rendements des cultures, directement à partir de ces modèles à partir des forçages climatiques, à partir des modèles climatiques. Donc ici, c'est une validation du modèle. Donc on l'a appliqué à la fois, on l'a appliqué sur toute la ceinture tropicale, donc à la fois en Afrique de l'Ouest et en Inde. Vous avez une validation ici du modèle entre donc les années, pas trop les chiffres, c'est entre les années 50 et les années 2000. Donc en noir, c'est le rendement observé. En rouge, c'est le rendement simulé. Donc à la fois en Afrique de l'Ouest et en Inde. Et vous voyez qu'on arrive bien avec notre modèle, même à cette grande échelle-là, à simuler le rendement des cultures. Donc on s'en est servi pour faire des diagnostics sur les projections de la R4, des modèles de changement climatique. Et donc on les a utilisés directement, sans les corriger, sans faire de downscaling, directement à l'échelle de ces modèles. Et on s'est quand même retrouvé avec le problème que ces modèles ont des biais. Et typiquement, avec le modèle de l'IPSL, on n'avait pas assez de pluie au Sahel. Et donc c'était quasiment le Sahara, et on a essayé de faire pousser du mil sur le Sahara, et on n'était pas arrivé. Donc on a quand même des problèmes de biais et d'état moyen des modèles. En fait, qu'on a résolu de manière assez simple. On a travaillé en termes de régions climatiquement homogènes. C'est-à-dire qu'on a fait des classifications sur les modèles. Donc sur les modèles, on avait, donc à partir d'indicateurs de température, de précipitation, on a fait des cartes sur les modèles, on a défini des classifications. Donc on a utilisé la classification de Köppen, qui est vraiment la classification une des classifications les plus anciennes en termes de climat. Donc on a utilisé cette classification pour donc dire que dans cette région, c'est une région aride, là c'est la région équatoriale avec une seule saison des pluies, là c'est une région humide, et ces régions peuvent varier en fonction des différents modèles. Et donc on se place dans un référentiel des modèles, et on va regarder dans la région équatoriale ou dans la région aride, comment évoluent les rendements, donc sans se poser la question de où est cette région dans les modèles. Donc on se place vraiment dans la référence modèle, et on a regardé donc, comment évoluent les rendements donc, dans la zone équatoriale humide, dans la zone avec une saison sèche, dans la région aride. Et donc, toutes les barres, en fait, là, c'est les changements en termes de rendement. Chaque barre correspond à un des modèles qu'on a utilisé, donc une des projections du changement climatique, un des modèles. Et puis, et donc, vous voyez que dans la plupart des régions, donc sur ces trois régions-là, donc les régions tempérées, les régions équatoriales, on a une baisse des rendements, donc qui est très robuste en fonction des différents modèles. Donc, on n'a pas de désaccord entre les modèles, ce qu'on pensait qu'on allait avoir au début. Mais là, on n'a pas de désaccord. Donc, on a une baisse de rendement. Et par contre, dans les régions arides, donc là c'est la région qui est c'est une région qui est vraiment à la marge entre le Sahel et entre la zone soudanienne et le Sahara, donc la frange nord du Sahel, on a par contre là on a la moitié des modèles qui nous donnent une augmentation forte des rendements, et l'autre plutôt une diminution. Donc là on a une incertitude forte. Et donc on a essayé d'analyser d'où vient cette incertitude, donc en faisant des projections de changement de rendement en termes de changement de précipitation dans nos modèles, en termes de changement de température. Et là, c'est l'exemple pour la zone aride. Vous voyez que la zone aride, en fait, son changement de rendement, il dépend du changement de précipitation. Donc, dans cette zone-là, c'est vraiment le changement de précipitation qui va dominer. Et comme nos projections des modèles, elles sont très incertaines en termes de précipitation, on arrive à une incertitude très forte sur le diagnostic des rendements. Et par contre, dans les autres zones, dans toutes les autres zones, c'est plutôt l'effet de la température qui domine. Vous voyez que plus on augmente la température, plus les rendements vont diminuer dans le futur. Donc là, comme on n'a pas d'incertitude dans nos modèles sur l'évolution de la température, on n'a pas d'incertitude sur le signe et sur l'évolution des rendements. Donc j'en arrive maintenant juste à la partie donc comment j'essaye de diagnostiquer les incertitudes vis-à-vis de ça. Donc en fait, on illustre ça en termes de cascade d'incertitudes, puisque nous on se retrouve au bout de la chaîne, on veut illustrer les impacts du changement climatique. Et en fait, donc il y a la façon dont les populations vont évoluer, vont émettre des gaz à effet de serre, comment ces gaz à effet de serre vont influer le climat. Si on choisit un modèle de climat ou un autre, on peut avoir une réponse, une sensibilité climatique qui va être différente, une évolution future différente. Selon la façon dont on va faire du downscaling, utiliser un modèle régional ou un autre, on va avoir des différences. Un modèle d'impact ou un autre, des différences. Donc tout ça, on se retrouve avec une cascade d'incertitudes très forte. Et donc nous, on a voulu essayer de documenter un petit peu cette incertitude. Et donc, en fait, pour faire ça, il faudrait avoir à chaque étape, essayer d'avoir plusieurs scénarios, plusieurs modèles, plusieurs méthodes de downscaling, plusieurs modèles agronomiques. Et donc, en fait, ce serait vraiment très très lourd à faire ça. On ne pourrait pas le faire, nous, juste avec notre simple équipe. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est une méta-analyse. Donc en fait, on a pris un ensemble de papiers qui ont été publiés sur la question dans la littérature, et on a combiné tous les résultats. Donc on a envoyé des mails aux auteurs des papiers pour qu'ils nous donnent leurs résultats de simulation, et puis on les a analysés donc pour voir où étaient les différentes sources d'incertitude et est-ce qu'on pouvait avoir des résultats robustes qui corroboraient un petit peu avec ce que nous, on a analysé. Donc c'est ce que vous voyez ici. Donc là, c'est une sorte de synthèse en fait, des résultats des différents modèles. Donc là, c'est l'évolution des rendements, c'est l'histogramme d'évolution des rendements. Donc là, c'est la densité des différentes études qu'on a utilisées, donc la fréquence en fait, où on a observé des impacts. Et donc c'est les impacts, donc là c'est impact négatif, impact positif. Et vous voyez la distribution un petit peu pour différents types d'études. Là, on s'est concentré sur deux types d'études complètement différentes, ceux qui utilisent des modèles mécanistes et des modèles empiriques, donc pour simuler les rendements. Donc là, c'est vraiment des choses totalement différentes. Et vous voyez que on a une dispersion qui est assez forte, donc jusqu'à entre moins 40% et plus 40% d'évolution des rendements, donc une incertitude qui est quand même très forte. Mais des valeurs modales, donc on a quand même une distribution qui est avec des valeurs modales autour d'une baisse des rendements, donc qui correspond un petit peu à ce que nous on a trouvé aussi. Et puis on a aussi une robustesse assez forte, puisque avec deux méthodes totalement différentes, on retrouve le même type d'impact.
Et autre chose sur laquelle on s'est intéressé, c'est en fonction du forçage radiatif. Donc on a regardé en fait, est-ce que en fonction d'un différent forçage radiatif, donc on avait une évolution différente d'évolution des rendements. C'est-à-dire est-ce que si on contrôlait en fait les émissions de gaz à effet de serre, si on atténuait le changement climatique, est-ce qu'on peut atténuer les impacts sur les rendements? Donc c'est ce qu'on a fait ici. En fait, on a discrétisé en fonction de deux types de forçage radiatif. Donc le forçage radiatif faible, donc c'est typiquement les scénarios B1 ou c'est les scénarios de basse émission. Et puis les forçages radiatifs forts, donc les forçages les plus intenses. Et donc là, vous voyez que l'évolution future des rendements est assez différente, avec des impacts beaucoup plus négatifs quand on a des forçages radiatifs forts que lorsqu'on avait des forçages radiatifs faibles, ce qui montre qu'on a un bénéfice de faire de l'atténuation du changement climatique, puisqu'on peut limiter les impacts sur les rendements au Sahel. Donc j'en arrive à mes conclusions. Donc on était parti de l'idée que les précipitations, c'était très important. Mais finalement, on est un petit peu revenu là-dessus, puisque on s'est aperçu qu'en fait, c'était vraiment les températures qui dominaient. Et donc, on était aussi parti de l'idée qu'on ne pouvait rien dire avec les scénarios, vu l'incertitude qu'il y avait sur les scénarios futurs. On pouvait même pas, on pouvait rien faire en fait on pouvait rien dire sur les rendements. Mais finalement, on peut quand même dire quelque chose, puisque c'est la température qui semble contrôler la baisse des rendements, et les précipitations, ça peut aggraver ou tempérer ce signal négatif. Après, donc, il y a un certain nombre de choses qui sont évidemment limitantes dans nos conclusions. Donc on quantifie juste l'effet du climat, mais il y a énormément de choses qui varient aussi en fonction du climat. On ne prend pas en compte l'adaptation. Donc il y a beaucoup de facteurs adaptatifs qui peuvent tempérer en fait, l'impact négatif du changement climatique. Donc les gens, si le climat change, ils ne vont pas attendre 2100 ou 2050 pour s'adapter. Ils s'adaptent au fur et à mesure, ils vont changer de variété, des variétés plus adaptées. Et donc ça va probablement lisser en fait l'effet du changement climatique, où ils peuvent même avoir des bénéfices du changement climatique pour des variétés qui sont complètement adaptées aux températures. Donc ça, on n'a pas pris en compte du tout. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte plus tard. Et c'est ce qu'on a commencé à voir en regardant en fait différentes variétés. Et puis on s'est aperçu que ce qu'on a montré sur l'évolution du rendement moyen, en fait ça peut être très très modulé en fonction des différentes variétés de mil ou de sorgho qu'on utilisait. Et en particulier, on a pu montrer qu'il y a des variétés locales des paysans qui étaient plus résilientes que les variétés qui étaient sélectionnées par les agronomes pour pouvoir augmenter les rendements. Donc il y a aussi vraiment une importance d'étudier ces adaptations-là. Donc c'est ce qu'on a voulu faire dans la suite du projet. En fait, le projet Regina va avoir comme suite un petit peu le projet Escape. Donc il y a un projet ANR qui va étudier justement ces pistes d'adaptation pour le futur. Donc c'est l'originalité par rapport à Regina, c'est la piste d'adaptation. Donc on va à la fois s'intéresser aux capacités d'adaptation des populations. Donc quelles sont leurs capacités d'adaptation? Est-ce que si elles ont vécu un changement climatique dans le passé, un changement environnemental dans le passé, est-ce qu'elles sont adaptées? Et comment elles sont adaptées? Donc là, ça suppose vraiment d'interroger les acteurs locaux à petite échelle et sur différentes études de cas, sur voir comment les gens sont adaptés au changement climatique, et puis de proposer nous des nouvelles stratégies d'adaptation, donc à partir d'expertise agronomique, donc des nouvelles variétés, à partir de l'utilisation des prévisions saisonnières ou d'utilisation des assurances agricoles, donc comment on pourrait limiter l'impact négatif de changement climatique. Donc c'est ce qu'on va faire dans ce projet. Et donc, pour conclure, je vous invite à... Donc on va travailler sur le Sénégal, donc sur plusieurs études de cas. Sur le Sénégal, sur le Mali, sur le Niger et sur le Bénin. Donc à chaque fois, on va essayer de mener les études de cas donc dans ces différents endroits pour interroger le contexte social, agricole, écologique. Donc de voir comment il y a eu des changements environnementaux à la fois dans le passé et puis quelle est la menace future et comment on peut s'adapter. Donc je vous invite à voir le site web du projet et je vous remercie de votre attention.
S'il y a une ou deux questions qui brûlent maintenant, vous pouvez. Parce qu'après, on passera à un autre endroit. Donc, après, on va avoir un temps de questions.
Ouais.
Et je l'ai dit. Personne ne veut dire oui.
Bon, allez, hop, je monte.
Merci. Je voudrais savoir, interroger Benjamin sur l'échelle de temps pour voir quelles sont les modalités d'adaptation des populations locales. Là, on risque d'avoir là aussi un petit cas.
Dans l'échelle de temps.
Comme si on voit 10 minutes, je passe le micro à Daniel.
Bonjour, Daniel Martin. Sur les rangements. Pardon. Est-ce qu'il y a une différence? Vous parlez des rendements, mais les rendements, ça dépend de l'espace peut-être. Et donc, sur mon site, le sorgho, le vin, c'est ça, c'est la même chose, on a le même comportement. Donc la question des rendements, la différenciation en fonction des espèces. Et puis la deuxième question qui est plus fondamentale, me semble-t-il, c'est la capacité de modéliser correctement les précipitations. Il semble que c'est le signal sensible qui vient de là, c'est-à-dire que selon les précipitations, ça augmente, ça diminue, ça fait un rendement. Donc, la vraie question derrière, c'est comment améliorer ces projections sur les précipitations.
Alors, une troisième question,
pour
pas que je fasse si vous avez une autre. Nathalie Doblet.
Oui, moi j'ai une question. Une première remarque sur les changements de rendement qu'on avait fait avec Alex Hibert. Ce que tu as pas dit, dont on pouvait débattre tout à l'heure, c'est que finalement ces 10 ou 20% de diminution ne sont rien par rapport au potentiel déjà aujourd'hui de diminuer ce dirigable, donc de progresser. Et je pense que là c'est vraiment une question qu'il faut qu'on se pose. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment important de s'intéresser aux changements climatiques là, alors que d'un point de vue technicité, on peut augmenter les rendements? La deuxième chose que je voulais discuter, c'est que je pense que la méthode des anomalies est une mauvaise méthode. Alors là, tu l'as présentée de manière tout à fait intéressante, mais de dire qu'un modèle qui place déjà l'ITCZ au mauvais endroit et de mettre 10 mm de précipitation de plus au sud de la Musson, enfin au sud de l'ITCZ tel qu'elle est, c'est pas bon. Et je pense qu'il faut surtout pas, nous aujourd'hui, il faut qu'on arrête. Je pense de dire qu'il faut utiliser cette méthode quand on veut faire des impacts.
Bon, Benjamin, tu réponds, mais aussi qu'on continue. Je ne peux pas faire des gymnastiques comme ça toute la journée. Hein.
Donc, je vais répondre dans le sens décroissant. Donc oui, Nathalie, je suis d'accord avec toi. Je n'ai pas voulu dire que c'était la méthode à utiliser, les anomalies. C'était une des méthodes possibles. On va utiliser nous pour avoir en fait une vision d'ensemble. En fait. Donc, quelles sont un peu les contraintes, quelles sont un petit peu les bornes négatives ou positives qu'il peut y avoir dans le contexte du changement climatique et comment les modèles se projettent par rapport à ça. En fait, c'était juste une façon d'avoir une métrique en fait pour évaluer, pour placer en fait les différents modèles. C'était plutôt ça l'idée, mais pas pour dire que c'était vraiment ça qu'il faut utiliser. C'est clair que c'est pas la meilleure méthode de votre. Et puis. Donc ensuite, ce que vous disiez sur les différentes variétés, nous, ce qu'on a observé, c'était effectivement, on a fait des simulations avec beaucoup de variétés, avec nos modèles agronomiques. On a observé qu'il y avait énormément de différences selon qu'on prenait une variété de mil ou une autre variété, selon une variété de sorgho ou une autre variété. Et puis, de toute façon, même les gens localement, ils ont plusieurs centaines de variétés différentes et qui ont chacune une réponse qui va être différente au changement climatique. Et nous, on s'est intéressé à avoir des variétés un petit peu génériques, des grosses variétés avec une grosse, par exemple, dire ça va être la variété tardive ou la variété plutôt courte, donc des variétés assez génériques qui permettent de dire quelle va être l'évolution, même si on ne rentre pas vraiment dans le détail de la variété proprement dite. Et on a effectivement vu que le choix d'une variété est vraiment critique sur l'évolution des rendements. On peut avoir des changements climatiques qui peuvent être atténués très fortement selon qu'on prend une variété ou une autre, mais par contre on n'a pas vu vraiment de changement de signe d'impact. Si on prenait une variété plus longue, on n'avait pas un changement qui va être positif cette fois sur les rendements. Mais par contre, on pouvait atténuer fortement l'impact du changement climatique, ce qui montre que c'est vraiment une stratégie d'adaptation importante face au changement climatique. Pour l'évolution des précipitations, c'est évident que c'est vraiment quelque chose de crucial sur le Sahel, qu'il faut augmenter notre connaissance sur les précipitations, c'est d'améliorer nos modèles. Donc c'est ce que la communauté climatique fait en permanence, en fait, notamment avec le GIEC, qui permet d'évaluer en fait à chaque fois avec un ensemble de modèles notre performance sur l'évolution des précipitations. Et là, par exemple, sur le nouvel exercice AR5, on voit qu'il y a plus de cohérence en fait entre les différents modèles sur l'évolution des précipitations. Donc on commence à savoir, par exemple, que maintenant il semble que la mousson va plutôt être vers une augmentation de la mousson dans le futur qu'une diminution. Donc c'est moins 50-50 par rapport à avant. Donc là, on commence à avoir un petit peu plus de certitude que maintenant. Donc ce qui montre qu'on progresse en fait dans notre connaissance de la mousson, mais c'est long. C'est très long et ça va pas se faire du jour au lendemain. Ensuite, sur l'échelle de temps qu'on va interroger avec les agriculteurs, nous, ce qu'on avait dans l'idée, c'était plutôt la sécheresse qu'il y a eu au Sahel. Donc, c'est-à-dire, en fait, dans les années 50-60. Donc, on avait une sorte de cas typique d'un changement climatique important dans la région. Et donc, notre idée, c'était de prendre cette entrée-là, de voir comment, dans différents contextes, dans différentes régions, comment les gens ont réagi localement, s'ils ont perçu cette sécheresse-là, ou s'ils n'ont pas perçu parce qu'ils sont atténués, ils sont adaptés au fur et à mesure, ou alors ça n'avait aucun impact sur leur activité. Donc notre idée, c'était de prendre cet exemple-là, donc les années 50-60, et ensuite d'aller aussi vers les projections futures, donc 2050 à 2100.
Merci Benjamin. Maintenant, Hypatia Nassopoulos va continuer sur les questions d'agriculture et d'eau, mais avec la question économique, coûts et bénéfices de l'adaptation au changement climatique. Et dans un premier temps, les hypothèses et les modèles sont testés plus au sud du Sahel. Elle va le dire elle-même. Donc vous avez 10 minutes, un quart d'heure.